Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers amis, la chair convoite contre l'esprit, nous dit l'apôtre aujourd'hui, et l'esprit contre la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre, en sorte que vous ne faites pas ce que vous voulez. En ce presque début d'année scolaire ou pastorale, comme l'on dit, voici qu'un rappel salutaire nous est adressé à point nommé. Chaque homme est un monde, oui, au sens où chaque homme est comme une création en miniature, car on y trouve en plus petit ce qu'on trouve en grand dans le monde sorti des mains du Créateur, à savoir une œuvre merveilleuse disant quelque chose de Dieu, son auteur, et de ses infinies perfections, de sa toute-puissance, de sa sagesse, de sa bonté. Mais une œuvre qui porte tout de même la blessure du péché, celui de nos premiers parents tout d'abord, puis des nôtres, et qui est devenu de ce fait en champ de bataille. L'apôtre nous présente en effet dans toute son acuité le conflit que se livrent l'esprit et la chair en nous. Cependant, prenons garde de ne pas faire ici un contresens. La chair n'est pas cette partie de la création qui est matérielle et corporelle, bonne en elle-même et qui a été voulue en tant que telle comme une partie constituante de notre nature et de celle de tous les vivants sur terre. Non, ce n'est pas là ce que vise saint Paul. La chair dont saint Paul parle ici est celle qui a été identifiée par saint Jean dans son épître comme la triple concupiscence ou le désir désordonné, et qui est la suite justement du péché originel dans notre nature. La concupiscence des yeux, la concupiscence de la chair et l'orgueil de la vie. Autrement dit, le triste triptyque, déjà reconnu par les anciens, des biens apparents qui font en réalité le malheur réel des hommes, car ils ne sont pas ordonnés à notre véritable fin, à savoir l'amour des richesses, des plaisirs et des honneurs. Tous les désirs qui se trouvent spontanément et habituellement en nous ne sont pas nécessairement des désirs naturels, au sens précis de conforme à notre nature et notre véritable fin. Qui n'est pas l'amour des richesses, des plaisirs et des honneurs, mais qui est de connaître, d'aimer et de servir Dieu. Tous ces désirs, par exemple, de me venger ou de dire du mal de mon voisin, ou de rechercher tel plaisir défendu, malgré toute la pression qu'ils exercent sur ma volonté et ma liberté, n'ont pas pour objet un bien véritable. Et si nous continuons de tomber dans le panneau, après tant d'années de vie chrétienne, que dis-je, après tant de siècles d'Église, c'est parce que nous avons une fâcheuse tendance à oublier la réalité du péché originel et de ses suites en nous. Ne soyons pas naïfs. Il y a bien quelque chose en nous qui doit être corrigé, rectifié, sanctifié. C'est là une bonne moitié de tout l'objet et le travail de la conversion. L'autre moitié, c'est de nous tourner vers Dieu. Et l'une ne va pas sans l'autre. Tous les stratèges vous le diront, je parle sous contrôle des officiers, les deux manières les plus faciles de perdre une bataille, c'est ou bien de largement sous-estimer son ennemi, ou bien de largement le surestimer. Hélas, ces derniers temps, les chrétiens semblent avoir tout simplement oublié qu'ils ont un ennemi qui est bien réel et qui ne dort jamais. Mais les textes du jour de cette messe ne sont pas là simplement pour livrer des mauvaises nouvelles, qui d'ailleurs ne sont pas si fraîches que ça, car cette histoire remonte droit au commencement et qu'il suffit de prendre les transports en commun aux heures de pointe, au dire de l'un de nos professeurs au séminaire, pour se rendre compte que le péché originel est bien réel et qu'il a laissé des séquelles en nous bien réelles aussi. Voici l'une des vérités les plus difficiles à admettre de toute la révélation, mais aussi l'une des plus éclairantes et des plus consolantes. Nous savons, dit saint Paul aux Romains, nous savons que pour ceux qui aiment Dieu, tout concourt au bien. Tout, vraiment tout, oui, y compris les épreuves, les maladies, les échecs, les injustices dont nous sommes victimes et celles dont nous avons pu nous rendre coupables par le passé. Il y a, voyez-vous, comme une sainte conspiration, une commune aspiration ou un souffle commun qui anime toutes choses et tous les événements pour le bien des élus et de l'Église, malgré toutes les apparences contraires. C'est pourquoi le Seigneur nous dit aujourd'hui, ne vous inquiétez pas pour votre vie ni pour votre corps. Regardez simplement les oiseaux du ciel et les lys des champs. Soyez sans inquiétude, car votre Père connaît tous vos besoins. Pour vous, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses dont vous avez besoin vous seront données par surcroît. S'il a soin de ces êtres, que sont les oiseaux du ciel et les lys des champs, combien plus il a soin, combien plus il aura soin de ceux qu'il a fait à son image et selon sa ressemblance. Et s'il a soin de nos corps et de nos besoins physiques, combien plus il aura soin de nos âmes et de nos besoins spirituels, de ces âmes qu'il désire revêtir de gloire et d'immortalité. En ce début d'année, peut-être, au moment où certaines difficultés commencent à poindre et certaines épreuves se sont déjà douloureusement annoncées, rappelons-nous que c'est tous les jours qu'il faut travailler au royaume et que c'est à chaque moment que la vie chrétienne authentique recommence, car on ne s'est jamais converti une bonne fois pour toutes. Et c'est 20 fois et plus qu'il faut que nous soyons prêts à remettre sur le métier notre ouvrage. Et nous le faisons avec joie, car nous le faisons pour celui que nous aimons et qui nous a aimés le premier. Il nous faut donc travailler à notre salut avec crainte et tremblement, dit saint Paul aux Philippiens, comme si tout dépendait de nous, mais fermement convaincus que tout dépend de Dieu, car nous sommes dans ses mains. En nous attendant au pire et en espérant au mieux, en nous rappelant que si ce que nous croyons semble parfois être trop beau pour être vrai, ce que nous ressentons parfois est trop mauvais pour être vrai aussi. Chers amis, avec saint Paul, nous avons bien raison d'espérer avec assurance, car notre espérance s'appuie sur la providence divine, complètement impuissante à nous décevoir. Car qui nous séparera de l'amour du Christ? La tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, les périls, le glaive? J'en ai l'assurance, ni mort, ni vie, ni ange, ni principauté, ni présent, ni avenir, ni puissance, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.